La Coquille Quotidienne, votre journal d'information du Val de Sioule, du lundi au vendredi, sur Radio Coquelicot 99 FM et radiocoquelicot.com.
Bonjour à toutes et à tous et bonne fête à tous les Maurice et Mauricette, Candide, Candice et Lo. Au sommaire de cette Coquille Quotidienne du vendredi 22 septembre, l'Alisol mise à l'honneur pour avoir accueilli dès 2018 des réfugiés en transit et ce en partenariat avec Viltaïs, une expérience qui a marqué tout un village et qui était célébrée voici quelques jours. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, plusieurs syndicats et partis politiques de gauche se sont réunis hier à Vichy pour un rassemblement contre la guerre et pour la paix. La commune de Bioza lance pour sa part la complémentaire santé communale. Une réunion d'information aura lieu ce lundi. Et puis on termine du côté de Sussa où s'est lancée dans la réalisation d'objets en découpe laser une jeune femme que vous découvrirez à la fin de ce journal. Et le succès est déjà au rendez-vous.
Le journal Juliette Moyer.
Mais tout d'abord, vous l'avez peut-être déjà remarqué, voire même attrapé, le Covid est de retour en France et la question des gestes barrières se pose à nouveau. Pour l'instant, la région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée de façon modérée. Sur l'ensemble de la région, 4390 cas ont été relevés sur la semaine du 11 au 17 septembre, dont 151 dans l'Allier. Les plus de 75 ans sont particulièrement touchés. Le nouveau vaccin adapté aux variants majoritaires circulant actuellement sera lui disponible à partir de ce 2 octobre. La campagne de vaccination antigrippale, elle, débutera le 17 octobre. En 2018, vous vous en souvenez peut-être si vous étiez dans le coin, la commune de l'Alisol avait accueilli des réfugiés en transit. Une initiative de la commune prise en accord avec Viltaïs. Une cérémonie avait lieu il y a donc quelques jours avec les habitants, les réfugiés et l'équipe de Viltaïs pour remercier la commune, mais aussi eh bien, pour se rappeler de ces moments forts. Des moments forts que Maurice Deschamps, le maire de la commune, n'a pas oublié.
J'habite à côté de l'école, je les vois, on voyait ces gamins passer, on voyait des adultes. Les derniers qu'on a eus, c'était des Afghans. Ils racontaient leur histoire. Il y a des gens qui parlaient très bien le français, c'était poignant comme tout. Et on a eu des exemples de gens qui parlaient aussi le français venant d'Afrique, notamment un monsieur qui s'appelait Eugène et qui était remarquable, un français formidable et qui avait envie de s'intégrer. Et d'ailleurs, d'après ce que je viens d'apprendre, il s'est parfaitement intégré. Et les gamins étaient adorables. Tout le monde a regretté, je me rappelle, le premier départ des enfants. Madame Guérin, qui était l'institutrice, a pleuré. Elle s'était attachée tellement aux enfants. Ils étaient accueillis avec des dessins partout. Ils étaient ravis, quoi, en fait. Ça se passait dans le meilleur des mondes. Et avec beaucoup d'affection de la part des gens qui s'en occupaient, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est fait.
Oui, dommage parce que l'expérience a dû être arrêtée. Maurice Deschamps revient d'ailleurs sur les causes qu'il pense être à l'origine de cela avec Juliette Lucot, directrice de Viltaïs.
On est quand même éloigné des centres. Ces gens-là, ils ont besoin d'heures de français. Il fallait les conduire à Ghana où ils arrivaient pour 4 mois en principe. Ils faisaient des bilans de santé et après ils partaient, disons, pour se rapprocher des villes et se réinsérer dans l'emploi, quoi. Et là, nous, on n'a pas d'emploi disponible. Je crois qu'ils ont changé de dispositif un peu pour ces raisons-là.
Mais on a toujours voulu combattre aussi cette notion. Voilà, de ruralité et de mobilité. Donc le dispositif s'inscrivait dans des appels à projets qui ont été un petit peu voilà, réorientés ou modifiés par les services de l'État. Donc voilà, on a pu développer à partir de ce modèle-là aussi de l'Alisol, de l'ESEME aussi dans d'autres territoires. Et aussi monsieur le maire s'était tenu à la disposition pour aussi valoriser l'expérience, nous soutenir et se mettre aussi en lien avec d'autres élus, même dans d'autres départements, pour montrer voilà, que ce dispositif peut marcher et effectivement sur cette période un petit peu de sas et de transit, les personnes trouvaient aussi un certain apaisement et aussi des liens plus solides que peut-être dans des grandes agglomérations et vraiment une qualité aussi de prise en charge et notamment bah, sur le plan de la scolarité, de la santé aussi et sur la création des liens sociaux.
Et parmi les réfugiés présents lors de cette cérémonie de remerciement, Awa, une jeune maman de 6 enfants originaire d'Afrique, elle garde de très bons souvenirs de l'Alisol.
On est arrivé à la France. On est resté à la liaison, c'était bien passé, mais c'était très compliqué parce que Tumfani, il était très gentil, il était avec nous toujours, mais c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas le français, on n'a aucune idée, mais c'était magnifique tout ce qu'il fait avec les gens qui travaillent avec lui. On était calmés, on est resté tranquille, donc c'était tout va bien. Aujourd'hui, on est installé à Morisson. raison des fonds bouillants. Donc, c'était très compliqué parce que c'était à l'appartement qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec beaucoup d'enfants. Donc, moi, je suis RCC, donc c'est très difficile pour moi parce que les enfants tous, il va descendre en bas, il fait n'importe quoi, il fait des bazars, il fait tout. Mais c'est comme ça, on commence comme ça jusqu'au bout. En principe, ça va.
Et voilà, de l'optimisme quand même. Retrouver toute cette aventure dans notre mère du vendredi, ce sera juste après ce journal. Le conseil départemental de l'Allier entame de nouveaux travaux de confortement de rives de chaussée. Ce sera du côté de Coutances-Souz, un chantier qui est programmé du 25 septembre au 27 octobre entre le bourg de Coutances-Souz et la RD 987. Un itinéraire de déviation sera mis en place, la circulation sera barrée et déviée dans les deux sens. Le stationnement sera interdit au droit de chantier pendant la durée des travaux. Hier, la Journée internationale de la paix a mobilisé la CGT, le mouvement pour la paix à Vichy. Raphaël y était, il nous raconte la suite.
Les averses d'hier n'auront pas stoppé les plus fervents défenseurs d'une paix durable. C'est sur la place de la mairie, hier à Vichy, que le mouvement pour la paix et la CGT se sont réunis en cette Journée internationale de la paix. Philippe Ivrard, animateur de la CGT, nous en dit plus sur cette démarche.
La journée de la paix, c'est une journée qui revient tous les ans. Et c'est vrai que cette année, elle a une connotation un peu particulière parce que finalement, la guerre est arrivée jusqu'en Europe. Et il y a un moment, on ne sait pas trop comment ça va s'arrêter. On est vraiment inquiet de cette montée de la violence, de cette montée de l'armement, puisqu'on voit bien, on ne trouve pas de l'argent pour le SMIG, on ne trouve pas de l'argent pour le RSA, on ne trouve pas de l'argent pour l'hôpital, on trouve de l'argent pour rien. Par contre, on trouve c'est combien, 400 et quelques milliards d'euros pour l'armement. Ça relance l'industrie de l'armement et on trouve que c'est complètement fou.
Le Mouvement pour la paix, dont une association a été créée en juin 2023 à Vichy, en a profité pour donner de la voix, en témoigne Guy Audibert, président de l'association.
Alors pour nous, elle est importante parce que c'est une journée internationale et parce que le mouvement de la paix a fait le choix des organisations internationales. Et le mouvement de la paix est reconnu par l'ONU comme une des organisations de la société civile qui participe à la politique de paix qui est celle des Nations Unies. Et donc pour nous, chaque fois que les organisations internationales peuvent intervenir au profit de la paix, nous considérons que c'est un atout.
La question de la paix est donc un combat majeur pour ces deux entités qui ont voulu montrer leur union pour cette cause.
Et petite précision apportée par Raphaël Palma, les propos tenus par Philippe Ivrard sur les 400 milliards d'euros font référence à la loi de programmation militaire. Elle prévoit d'insuffler cette somme sur 7 ans dans l'armée pour ses différents besoins, y compris l'armement, mais pas seulement. Et puis de son côté, la France Insoumise, ELV et plusieurs structures syndicales appellent à des rassemblements sur l'Allier ce samedi 23 septembre pour dire non aux violences policières et au racisme systémique. Cet ensemble revendique entre autres une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Il réclame également la création d'un service dédié aux discriminations envers la jeunesse et un plan d'investissement public dans les quartiers populaires. Les rassemblements auront lieu à 10h30 ce samedi 23 septembre, place de la Poste à Vichy, place d'Ali à Moulins et place Piquant à Montluçon. Et puis c'est officiel, la foire de Moulins a choisi son thème, ce sera le Canada, et ça tombe bien, elle sera en pleine saison, puisque cette foire aura lieu du 2 au 11 février à Avers. Mais puis si vous aviez l'intention d'aller vous balader ce week-end dans la forêt des Colettes, sachez que la commune de Belle-Nave a créé un petit calendrier très pratique. La randonnée pour ne pas se confronter avec les chasseurs, eh bien c'est possible lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche sur la partie haute de la forêt, et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche sur la partie basse. Retrouvez cette carte sur notre page Facebook. Faire des économies sur sa mutuelle, c'est plutôt une bonne idée par les temps qui courent. Et les communes accompagnent les habitants en proposant des complémentaires santé communale, comme par exemple à Biosa. Les précisions de Noël Seguin, elle est la maire de la commune.
Nous étions sollicités notamment par l'entreprise AXA pour nous proposer ce service. J'ai pensé que ça pouvait justement être utile à certaines familles qui soit n'ont pas du tout de complémentaire santé ou éventuellement ont un service qui pourrait être amélioré. Nous leur proposons ce nouveau service en espérant que ça puisse être utile aux familles potentiellement concernées. Mais néanmoins, il faut bien préciser que la commune n'a aucun intérêt plus avec AXA qu'avec tout autre potentiel fournisseur. Et puis, nous ne sommes pas opposés au fait que d'autres mutuelles puissent se présenter et avoir la même démarche. Voilà. Chaque personne potentiellement concernée prendra contact avec les interlocuteurs AXA pour avoir un rendez-vous privé chez eux pour expliquer leurs attentes.
Et justement, une réunion publique d'information est proposée le lundi 25 septembre à 18h en mairie de Biosa. Il est encore temps de vous offrir des cours de musique. Vous pouvez toujours rejoindre l'école de musique sur l'un de ces trois sites où musique classique, jazz et musique traditionnelle vous seront proposées pour vous permettre de vous épanouir selon vos goûts. Et puis, il y aura également de la culture ce week-end, ce samedi notamment à Janza avec une balade patrimoine d'un pont à l'autre. Le départ est à 15h rue de l'église, un parcours de 9 km. Parmi les animations, une visite de l'installation hydroélectrique du Moulin Infernal et de l'atelier Émail et Merveilles. Du côté de Solcé, il y aura à 18h en l'église Saint-Julien de Solcé un concert chœur au joli bois au profit de la restauration des décors peints. La participation est libre. Et puis à Taxasna, à 17h en l'église Saint-André, la chorale Chantelle chante, donne un concert pour le patrimoine. La participation est libre. Et à Belle-Nave, de 14h à 16h, le poète Victor Varjac vous attend au bar Europa pour un instant poésie. Et puis, si vous aimez le bruit caractéristique du solex, vous allez être ravis. Sachez que ce samedi 24 septembre, le village de Brouvernay va accueillir le Solex Club du Puy-de-Dôme comme point de départ de sa randonnée annuelle. Une randonnée de 50 km effectuée par une trentaine de vélos solex que le public pourra admirer dès 8h place de la mairie et jusqu'à les alentours de 9h. Ensuite, les solex prendront la direction de Lorige, Paray-sous-Briaille, Varennes-sur-Allier, Rongères, Créchy, Sansa, Billy, Marcenat, Saint-Didier-la-Forêt et enfin retour à Brouvernay. Et puis on continue ce journal du côté de Susa cette fois-ci. Pascaline Doré s'est lancée dans la réalisation d'objets en découpe laser et elle a déjà trouvé son public.
Alors je fabrique divers objets, donc bijoux en bois. Je fais des cadres, des lanternes, un peu au gré de ce qu'on me demande. Et je fais de la sublimation. On a différents supports, en polymère souvent. Et moi, j'imprime des motifs, des textes. Et avec un encre et du papier spécial, en fait, je chauffe sur mon support et ça fusionne. Donc du coup, je peux personnaliser différents supports comme des tasses, des porte-clés, des décapsuleurs, au gré des envies des personnes. Je suis une touche à tout, je suis très manuelle. Mon père touche au bois, il fait du tour à bois et des jeux anciens. J'ai découvert la découpe laser que j'utilise, Fab Lab. Donc du coup, j'ai aimé cette machine qui me permet de développer ma créativité.
Et comme Pascaline le dit, le Fab Lab l'a beaucoup aidé à démarrer cette activité. Tout comme sa famille.
Alors, le Fab Lab, j'y allais quand j'ai découvert. Maintenant que j'ai ma machine, je le fais avec ma machine. Le Fab Lab, c'est un organisme qui met à disposition diverses machines. Il y a des brodeuses, il y a des découpes laser. Et on peut y aller en payant un forfait selon le Fab Lab. Ils nous accompagnent, donc c'est vrai qu'ils m'ont aidé. Après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup appris. Par contre, certains fichiers, je les achète. Certains je les trouve, d'autres je les fais ou je les modifie. Tout ne sont pas de la création de A à Z pour moi. Mais après, de le monter, de le construire, c'est moi qui le fais. J'ai aussi la chance d'avoir une famille qui laisse la créativité, qui ne m'ont jamais interdit, qui au contraire me pousse. C'est un projet fou, c'est pas grave, qu'on tente et tu verras ce que ça donne. Donc, et ça vient comme ça, alors je dirais plutôt la nuit. Parce que mon petit vélo dans la tête ne s'arrête jamais. La nuit m'inspire et c'est des images que je vois et je tente.
Voilà, et elle tente et c'est plutôt très joli. Sachez que des Fab Labs, il y en a plusieurs dans l'Allier, dont un à Vichy, à l'Atrium. Et puis si vous voulez découvrir le travail de Pascaline, eh bien une page Facebook Evelina création. Enfin, tristesse du côté de Vichy, l'un des artistes phares de l'expo Portrait de cette année. Erwin Olaf s'est éteint ce 20 septembre. L'exposition rétrospective, la seule en extérieur de sa carrière, restera donc exceptionnellement jusqu'au 29 octobre sur l'esplanade du lac d'Allier. Semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice. Surtout que ces semis seront arrosés par des petites pluies ou des averses cet après-midi dans un air nettement rafraîchi, compté entre 15 et 18 degrés. Samedi sera certainement la journée la plus fraîche, dans un ciel d'éclairci, parfois matiné de quelques gouttes, surtout le matin. La nuit claire annonce par contre une chute drastique du mercure autour de 4 à 8 degrés et le réveil dimanche matin aura des airs de bel hiver ensoleillé. Et oui, Météo France annonce des températures entre 3 et 6 degrés. J'espère que ça n'a pas encore baissé parce que là, franchement, je ne sais pas si je vais sortir. Et l'amplitude thermique sera forte car l'après-midi, dans un ciel sans nuages, on pourrait relever jusqu'à 20 degrés. La grande douceur, voire la chaleur, sera elle de retour en début de semaine avant à nouveau de la pluie à partir de jeudi. Un automne donc qui se cherche, lui qui officiellement apparaît sur le calendrier ce samedi. Et puis, comme le disait Toulouse-Lautrec, l'automne est le printemps de l'hiver. Alors on en profite, quel que soit le temps. Bon week-end sur Radio Coquelicot.
L'invité du jour est à retrouver dans la Coquelicot quotidienne du lundi au vendredi sur Radio Coquelicot 99 FM et radiocoquelicot.com.
L'ambiance était joyeuse il y a quelques jours du côté de l'Alisole au gîte. En effet, de nombreuses personnes s'y sont retrouvées pour remercier la commune d'avoir accueilli des réfugiés en transit il y a quelques années en accompagnement avec Viltaïs, des réfugiés qui avaient fait le déplacement. Et pour en parler, eh bien, nous avons aujourd'hui à notre micro le maire Maurice Deschamps, maire de l'Alisole, Juliette Lucot, qui est directrice de Viltaïs, et Philippe Denis, qui est vice-président de Viltaïs. Mais c'est tout d'abord le maire, Maurice Deschamps, qui nous raconte comment tout cela a commencé.
Écoutez, on a eu l'idée par M. Trapenard, qui était le maire de l'époque, d'accueillir des réfugiés, parce qu'il me disait qu'à Paris, il y avait ce genre de choses qui existaient, des accueils comme on s'apprêtait à vouloir le faire. Et donc, on s'est lancé sur la piste et on a dit pourquoi pas. Et on a dit c'est d'abord une belle expérience, une belle aventure. Et puis, en plus, il fallait bien dire aussi, c'est une population qui arrive, qui va être à l'école, qui va pouvoir aller à l'épicerie, qui va pouvoir animer un peu la commune. Et Dieu sait si ça s'est révélé juste.
Alors vous, du côté de Viltaïs, justement, vous cherchiez des communes qui pouvaient être accueillantes. Quelles ont été les démarches que vous avez effectuées, Philippe Denis ?
Alors tout à fait. On était à la recherche dans les zones rurales de communes prêtes à accueillir des réfugiés en transit, hein, puisque c'était sur des durées courtes. Donc elles ne sont pas restées très longtemps sur la commune, mais dans un but d'insertion. Ce qui a d'ailleurs très très bien marché. On a plusieurs exemples. Monsieur le maire pourra en citer. Et effectivement, le lien s'est fait assez rapidement. Et d'ailleurs, l'Alisole a été la première commune rurale de l'Allier qui a accueilli ces réfugiés.
Ce dispositif a été mis en place à quel moment, dans quelle année ?
Il a démarré en 2018 ici. Il continue, mais dans d'autres endroits, puisque ça s'est arrêté à l'Alisole. On le regrette, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir continuer, mais ça se développe dans d'autres communes du département.
Si je peux me permettre, je me rappelle d'un conseil municipal qui a été initiateur, c'était en décembre 2017, et on a accueilli M. Morel, qui était le responsable de l'ensemble de cette opération, et ça n'a pas été si facile que ça, mais enfin on a convaincu le conseil et après on a convaincu à peu près la population, et qui s'est bien rendu compte que c'est pas parce qu'on avait des noirs entre guillemets dans notre commune que ça changeait bien grand chose. Au contraire, ça faisait beaucoup de gens qui remuaient, qui bougeaient et qui faisaient vivre le village.
Alors Juliette Hugo, quels sont les critères justement pour qu'une commune puisse accueillir des réfugiés en transit ?
Mais je pense qu'il faut collaborer dès le départ et c'est vraiment un travail main dans la main. Et la LISOL a été l'exemple parfait. On a vraiment pu rassurer, nous, les élus, monsieur le maire, son conseil municipal, en venant effectivement et en étant à leur côté pour expliquer ce qu'est une personne réfugiée, comment s'organise le dispositif. Il y a eu une équipe présente aussi sur site. Monsieur le maire avait les coordonnées, pouvait joindre à tout moment. On a vraiment fait aussi beaucoup d'opérations de médiation, de mise en relation. Le travail avec les écoles a été aussi remarquable. Ça a été d'associer vraiment en amont et avant chaque accueil, de pouvoir aussi bien présenter le projet, être disponible, être réactif. Et c'est vraiment ce travail main dans la main qui fait que ça a vraiment été une réussite sur tous les plans.
Alors un accueil Maurice Deschamps qui a eu lieu dans ce gîte où nous sommes aujourd'hui.
L'accueil, il a lieu en général, ces gens venaient d'Agadez dans le Niger. Je crois que c'est la plupart, ils arrivaient de là. Ils arrivaient par avion à Orly et on les transporte. Vitalis les faisait conduire par car jusqu'ici. En général, ils occupaient les logements. Immédiatement, on avait 3 logements disponibles sur la commune, 2 qui appartenaient à la commune et une à Ali Habitat. Donc ça se faisait naturellement. Il y a eu des fois des incidents. Je me rappelle une fois des gens qui sont arrivés en bus, c'était un dimanche après-midi, et ils ne voyaient pas bien où ils se trouvaient, ils voyaient la commune petite, ils ne voulaient pas s'installer. Mais bon, ça s'est quand même réglé après. Ils ont rejoint leurs appartements et ça s'est réglé dans de bonnes choses. Moi, le souvenir que j'ai le plus marquant, si vous voulez, je vais vous dire, c'est que quand on est passé par la préfecture, parce que M. Morel voulait absolument avoir les accords préfectoraux, c'était indispensable. Donc M. Trapenard avait appelé la sous-préfète, je ne sais pas ce qu'il s'est raconté, et puis M. Morel, une demi-heure après, m'appelle et il me dit « le projet est mort ». Ah, j'ai dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Peut-être M. Trapenard a peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire à la sous-préfète. Et moi, j'ai dit, je regarde la notice que j'avais, projet esquisse, c'était ça. Le projet esquisse, et je vois l'initiateur du projet, c'est le président de la République, M. Macron. Donc je téléphone au secrétaire général de la préfecture. Et je lui en parle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, nous, on a autre chose à faire et ça demande des pouvoirs de police, etc. Mais j'ai dit, monsieur, l'initiateur du projet, c'est bien le président de la République. On est d'accord. Il me dit, oui, on est d'accord. Eh bien, alors, j'ai dit, il faut y aller. Et ça s'est tout débloqué.
Voilà. Alors, débloqué et avec des effets positifs, vous le disiez aussi, sur la commune de la LISOL.
Oui, moi, franchement, j'habite à côté de l'école. Je les vois, on voyait ces gamins passer. On voyait des adultes. Les derniers qu'on a eus, c'était des Afghans. C'était vraiment des gens, ils racontaient leur histoire. Il y a des gens qui parlaient très bien le français. C'était poignant comme tout. Et on a eu des exemples de gens qui parlaient aussi le français venant d'Afrique. Notamment un monsieur qui s'appelait Eugène et qui était remarquable, un français formidable et qui avait envie de s'intégrer. Et d'ailleurs, d'après ce que je viens d'apprendre, il s'est parfaitement intégré. Et les gamins étaient adorables.
Philippe disait qu'en fait, il y avait eu une cessation de cette activité d'accueil. Pourquoi?
Eh bien, pourquoi? Parce que je pense que on est quand même, ils se sont rendus compte, je pense, l'organisation, qu'on est quand même éloigné des centres. Que pour ces gens-là, ils ont besoin d'heures de français. Il fallait les conduire à Ghana au minimum à Ghana, qu'on était un peu loin de tout et que là, ils arrivaient pour 4 mois en principe. Ils faisaient comment dire, des bilans de santé, le français aussi. Et après, ils partaient, disons, pour se rapprocher des villes et se réinsérer dans l'emploi, quoi. Et là, nous, on n'a pas d'emploi disponible. Je crois qu'ils ont changé de dispositif un peu pour ces raisons-là. On est un peu éloigné, quoi, c'est dommage.
C'est ça la réalité, Juliette Lucot?
Alors, effectivement, mais on a toujours voulu combattre aussi cette notion de ruralité et de mobilité. Donc, le dispositif s'inscrivait dans des appels à projets qui ont été un petit peu réorientés ou modifiés par les services de l'État. Donc, on avait pu continuer un petit peu l'activité à la LISOL autour de places de centres provisoires d'hébergement, donc pour personnes aussi réfugiées. Mais sur la partie de réinstallation, il n'y a plus d'accueil dans le département de l'Allier. Et ça s'est fait plutôt dans d'autres départements. Donc on a pu développer à partir de ce modèle-là aussi de la LISOL, de l'ESME aussi dans d'autres territoires. Et aussi, monsieur le maire s'était tenu à la disposition pour aussi valoriser l'expérience, nous soutenir et se mettre aussi en lien avec d'autres élus, même dans d'autres départements, pour montrer que ce dispositif peut marcher. Et effectivement, sur cette période un petit peu de sas et de transit, les personnes trouvaient aussi un certain apaisement et aussi des liens plus solides que peut-être dans des grandes agglomérations. Et vraiment une qualité aussi de prise en charge, et notamment sur le plan de la scolarité, de la santé aussi, et sur la création des liens sociaux.
Philippe Denis, aujourd'hui, quelle est la situation dans l'Allier justement sur ces accueils de réfugiés en transit? Vous avez plusieurs communes, vous le disiez, qui participent, combien?
Alors, les dispositifs ont un peu changé, l'État a revu un peu sa copie, et donc on n'a plus tout à fait le même type d'accueil aujourd'hui. On accueille toujours des réfugiés dans l'Allier, je ne saurais pas dire le nom, mais peut-être que Juliette le sait.
On est à peu près sur une cinquantaine de places pour nous au titre de Viltaïs, mais il y a d'autres associations aussi qui portent ces projets-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de publics accueillis, mais effectivement c'est sous d'autres formes, d'autres modalités d'intervention, mais on est toujours voilà, sur une volonté d'accueil et l'État aussi soutient cette action.
Aujourd'hui, à la Lisole, vous regrettez cette population. Vous aimeriez, si jamais l'occasion se présentait, d'accueillir à nouveau des personnes.
Maintenant qu'on a l'expérience, on peut dire à plus forte raison. Hein. Et puis, on a beaucoup regretté. Tout le monde a regretté, je me rappelle, le premier départ des enfants. Madame Guérin, qui était l'institutrice, a pleuré. Elle s'était attachée tellement aux enfants. Ils étaient accueillis aussi par les petits jeunes, ils les avaient conditionnés, évidemment. Ils étaient accueillis avec des dessins partout. Ils étaient ravis, quoi, en fait. Ça se passait dans le meilleur des mondes. Et avec beaucoup d'affection de la part des gens qui s'en occupaient, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est fait.
Alors aujourd'hui, il y a cette petite cérémonie ici, à la Lisole. C'est une façon de remercier tout ce qui s'est passé, Juliette ?
Oui, effectivement, c'était important pour nous de célébrer aussi cette partie-là et de remercier aussi de l'accueil de toutes ces années, de la confiance qui a été accordée, puisque pour nous, c'était aussi la première commune avec laquelle on travaillait et de faire de cette expérience aussi une réussite. On a la chance d'accueillir aussi des familles qui ont transité par la Lisole. Je pense et c'est important de marquer ces moments-là. C'est beaucoup d'émotions aussi pour les équipes qui ont œuvré aussi et de faire le pari de cette ruralité et de l'acceptation aussi de ce public. Donc c'est aussi porter un message d'espoir par rapport à l'accueil de ces familles.
Et merci beaucoup à Maurice Deschamps, maire de la Lisole, ainsi qu'à Juliette Lucot, directrice de Viltaïs, et Philippe Denis, vice-président de Viltaïs, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Coquelicot.
C'était votre invité du jour dans la Coquelicotidienne, une édition à podcaster sur radiocoquelicot.com.